au début de l'univers, il n'y avait pas d'atome autre que l'hydrogène, parce que c'est le plus petit. Et c'est grâce aux explosions d'étoiles qu'il y a des atomes d'oxygène et de carbone. Et des atomes plus gros. Et donc si aujourd'hui il y a toute la chimie organique de notre planète, c'est parce que justement il y a eu des étoiles qui ont explosé avant. Donc quand Hubert Reeves dit on est des poussières d'étoiles, c'est vraiment ça quoi.
Nous sommes avec Maxime Roumazeï, bonjour.
Bonjour.
Nous sommes à Musiflore, centre de loisirs à Crupy dans la Drôme. Maxime, vous êtes animateur, passionné de biologie et d'écologie. Vous vous intéressez particulièrement à l'astronomie et vous proposez ici ce soir une soirée astronomie. Est-ce que vous pouvez nous présenter les grandes lignes du déroulement de la soirée ?
Oui, alors c'est difficile de créer des grandes lignes puisqu'il y a toujours tellement de questions à travers l'astronomie qu'à chaque fois que j'ai essayé de faire une séance structurée, ça partait dans tous les sens. Mais globalement, ce soir, c'est la pleine lune et donc ce sera une soirée autour de la lune puisque quand la lune est là, les autres objets sont plus difficiles à voir. Donc on va surtout parler de la lune et puis en général, on commence toujours par présenter un petit peu ce qu'on peut observer avec un télescope et puis les différents instruments avec lesquels on peut observer.
Qui assiste à ces soirées autour de l'astronomie ?
Eh ben, c'est chouette parce que plein de gens, et à chaque fois des gens différents. Donc à la fois il y a des enfants, des adultes, des personnes sûrement retraitées, qui viennent d'un peu partout, donc c'est assez chouette.
Je peux essayer, papa ?
Non, j'étais perdu.
Perdu la lune. Dommage, moi je la vois bien.
Tu la vois toi,
lune ? Alors, essaie de la retrouver, tu bouges comme ça, puis essaie de la retrouver. Non, comme c'est lumineux, si tu suis la lumière.
C'est lumineux, mais j'ai pas. Il y avait un peu des nuages, alors je me suis
perdu.
Ah
oui, c'est ça. Lui.
Qu'est-ce que tu vois alors
c'est
dedans ?
Il y a un cratère.
Et alors en bas à droite, là, il y a une mer qui est vraiment bien ronde, bien sombre. C'est la mer des Crises.
Avant, ils pensaient que c'était des mers, vu que ça faisait comme un peu des océans.
Et je crois que c'est les Grecs les premiers qui ont dit ça. Puis après, c'est resté. Maintenant, on sait que c'est des. Pour la plupart, c'est des immenses cratères. Assez récents. Regarde là, en haut. L'énorme cratère.
Ouais, c'est super beau. Là.
Quel matériel vous mettez à disposition pour les gens qui observent les étoiles ce soir ou les astres ?
Donc on a plusieurs télescopes qui nous sont prêtés ici par une association de laquelle on est partenaire qui s'appelle Objectif Science Internationale. Et donc on a deux télescopes et une lunette astronomique. Et selon les soirées, on sort les uns ou les autres. Et ce soir, il y aura un gros télescope, un plus petit. Et il y a quelqu'un qui vient avec son télescope pour participer à l'animation de la soirée.
Il faut que le miroir primaire soit bien aligné avec le miroir secondaire qui renvoie la lumière correctement ici. S'il y a un tout petit jeu, et ben la lumière elle fait... Et puis du coup tu vois des étoiles un peu mutantes. Là cette monture, tu vois ce qu'elle a de spécial, c'est cet angle-là. Cette rotation-là, ça correspond à l'axe de rotation de la Terre. Et donc du coup ça veut dire que comme nous on tourne très vite, 1600 km/h à l'équateur, et ben si on vise quelque chose de très précis, ça va tout de suite sortir du champ puisque nous on bouge quoi. Et donc là l'objectif c'est que avec cet angle là, on est juste à faire le suivi comme ça quoi.
Ce soir c'est la pleine lune, donc les autres planètes vont être plus difficiles à voir. Est-ce qu'on va quand même pouvoir observer des planètes ce soir ?
Alors c'est une bonne question. La Lune, ça éclaire très fort. Les planètes sont très proches de nous, donc elles éclairent très fort aussi. Hélas, ce soir, elles ne sont pas visibles. Les planètes habituelles, après, il y a les planètes très lointaines, qui ne sont pas vraiment intéressantes, puisque ça fait juste des petits points. Mais Saturne, Jupiter, par exemple, ne sont pas présentes ce soir.
Alban, c'est quoi la petite phrase pour retenir
exactement.
Le...
Mélanie, viendras-tu manger sur un nuage ?
Il manque le J.
Jeudi ?
Jeudi, oui, ça doit être un truc comme ça, ouais.
Qu'est-ce qui vous passionne le plus en astronomie ?
Je pense que c'est d'être dehors et de parler de plein de choses qui nous dépassent complètement avec plein de gens. Et ça, c'est vraiment super chouette. Et de se rendre compte qu'on n'est pas grand-chose dans cet énorme univers, mais que finalement, on a quand même notre petit pouvoir un peu à notre échelle.
L'astronomie est plus accessible aujourd'hui, notamment grâce à des personnes professionnelles ou non. Je pense à Hubert Reeves, par exemple. Qui savent transmettre leur passion au grand public. Alors, est-ce que, à votre avis, l'astronomie est aujourd'hui un sujet à la mode ?
Dire que c'est un sujet à la mode, c'est difficile à dire. En tout cas, c'est un sujet beaucoup plus accessible. D'abord parce que le coût du matériel, comme un télescope par exemple, c'est beaucoup moins cher qu'il y a rien que 10 ans. Donc c'est plus facile de s'en procurer. Donc après, ben, c'est plus facile aussi de développer cette passion. Et il y a aussi un autre aspect qui se développe énormément en ce moment, c'est les sciences participatives. Et donc pour l'astronomie, il y a beaucoup d'amateurs, dont ce n'est pas le métier, qui participent énormément à la science et qui du coup ben, participent au fait que l'astronomie soit un sujet plus facile d'accès.
Faut de la Lune avant, elle est rentrée dans la Terre, ça a arraché un bout de toute Terre.
Bien joué.
Je me suis toujours dit que nous apprenions beaucoup la vie en observant là où il n'y en a pas. Pensez-vous que l'astronomie devrait être une matière à part entière du programme scolaire?
Dans le sens philosophique du terme?
Alors oui, la phrase d'introduction, c'est le sens philosophique, mais aussi, est-ce que ça pourrait être une matière principale au même titre que la géographie ou l'histoire, ou du moins un chapitre beaucoup plus important qui prendrait beaucoup plus de place dans la scolarité des enfants?
C'est une bonne question, mais à la fois, ce qu'il y a d'intéressant dans l'astronomie, c'est que ça reste très mystérieux et c'est la nuit. On aborde l'astronomie à l'école primaire, au collège et au lycée, dans la matière qu'on appelle science et vie de la Terre. Après, est-ce qu'on devrait plus l'appréhender? C'est difficile à dire. Est-ce qu'on a besoin de connaître très précisément l'ensemble de l'univers pour comprendre notre vie à nous? Je sais pas, peut-être qu'il y a d'autres priorités, mais en tout cas, le fait de prendre du temps le soir, ça permet déjà une autre ambiance complètement différente. Et ça, c'est vrai que ça n'existe pas dans le milieu scolaire.
Sa révolution est égale à sa rotation.
Révolution, elle a appris à
Oui, ils ont fini à l'école un peu tout ça.
Et donc, alors, c'est quoi la révolution?
Quand elle a fait un tour autour du soleil.
C'est un tour complet. Alors, et si on parle de la révolution de la Lune, c'est quoi?
C'est un tour complet autour de
la Terre.
La Terre.
Exactement. Voilà. Et la rotation?
C'est quand la Terre a fait un tour sur elle-même.
Maxime Rose-Mazaï, vous avez fait une licence d'écologie à Rennes, puis un master en écologie à Montpellier en 2011. Vous avez également fait beaucoup d'éducation à l'environnement. Aujourd'hui, quel rapport faites-vous entre l'astronomie et l'écologie?
Il y a d'abord l'aspect très pratique. En astronomie, on parle beaucoup de pollution lumineuse. Donc on observe la nuit. Et la nuit, il y a énormément de biodiversité nocturne, que ce soit les chouettes, les chauves-souris, les insectes, qui souffrent énormément de la pollution nocturne, comme les observateurs à travers un télescope. Donc ça, c'est un premier lien. Et puis un autre lien, c'est vrai que quand on observe les choses qui sont très très loin, ça nous fait forcément poser question sur nous-mêmes et sur ce qu'on fait ici, et quand même sur le fait que notre planète est exceptionnelle et qu'on la défonce carrément. Et donc ça, c'est un peu triste quand même. Et donc ça permet de vraiment se rendre compte de certaines choses, en relativisant avec cette immensité.
Thank you.
Est-ce que vous pouvez nous parler plus en détail des objets plus lointains de notre galaxie? Une nébuleuse, par exemple, pouvez-vous nous décrire ce que c'est?
Alors, de façon très pragmatique, une nébuleuse, c'est quelque chose de flou, de nébuleux. C'est comme ça que ça avait été défini au début. Bon, maintenant, on peut en définir plusieurs types. Donc, les deux grands types, c'est de base des nuages de gaz, globalement. Et donc, on distingue les nébuleuses planétaires, qui sont des nuages de gaz issus de l'explosion d'une étoile, quand elle est en fin de vie. Quand elle a utilisé tout son carburant, elle explose en mettant ces nuages de gaz autour d'elle. On peut en observer. Et après, il y a les autres types de nébuleuses, c'est des grands nuages immenses qui occupent vraiment une grande portion d'espace dans notre galaxie. Et là, ben, dans ces nuages de gaz-là, il arrive que les circonstances fassent qu'il y a une petite chose qui va s'accommoder avec une autre, et puis une autre, et puis une autre, et puis ça va être suffisamment lourd pour que ça fasse une étoile. Donc de façon grossière, on pourrait distinguer les nébuleuses en deux catégories, celles qui sont issues de la mort d'une étoile et celles qui vont donner naissance
à une étoile.
À une étoile.
Un amas.
Alors même chose, il existe plusieurs types d'amas. Il y a les amas qu'on appelle ouverts, et là c'est maximum une centaine d'étoiles, hein, ça peut être beaucoup moins, une dizaine, une centaine d'étoiles. Et elles sont nées plus ou moins au même endroit, au même moment, ce qui fait qu'elles sont liées. Et donc on les voit proches les unes des autres. Et ça fait comme un petit grumeau, avec des espaces assez importants entre les étoiles. Ça, c'est un amas ouvert. Et puis après, il y a les amas dits globulaires, où là, ça fait des espèces de gros grumeaux, de 150 000 étoiles jusqu'à 1 million d'étoiles. Donc c'est quelque chose de très dense. Et là, c'est des très vieilles étoiles qui mettent beaucoup de temps à griller leur carburant et qui vont vivre encore très très longtemps. Et elles sont souvent un peu à la périphérie de la galaxie. Et la dernière fois que je m'étais renseigné, ils ne savaient pas trop ce que c'était. Ils pensaient que c'était lié à la naissance de la galaxie. C'était lié au tout début de la galaxie. Voilà les deux types d'amas.
Est-ce que vous avez une planète préférée ou un astre qui vous intéresse plus que les autres?
Allez, on va dire cinq choses. La Lune, c'est toujours formidable parce que c'est très facile. C'est juste là. Il suffit juste de l'observer aux jumelles et c'est incroyable. Et pareil avec un télescope. Et puis après, les deux planètes qui donnent le plus de spectacle, on va dire, hein, c'est Jupiter et Saturne. Jupiter parce qu'on peut en deviner l'atmosphère, on voit bien ses lunes autour, et puis Saturne avec son anneau. Et donc ça, c'est toujours assez impressionnant. Et puis après, il y a des amas que je trouve vraiment très jolis. Un amas dans la constellation de l'Aigle, où ça fait vraiment... C'est très esthétique, l'assemblage des étoiles, et tout ça, je trouve ça très joli. Et puis après... Allez, pouvoir observer des galaxies en dehors de notre galaxie, c'est quand même incroyable.
C'est magnifique, on les voit comme un tout petit nuage dans le ciel, très, très facile à regarder. Je crois qu'il faut regarder à côté même pour le voir vraiment.
Oui, alors là, pour rentrer un peu dans les détails pratiques, c'est vrai que sur Internet, on voit plein de photos magnifiques avec plein de couleurs et on se dit, ouais, je vais voir ça au télescope. Bon. C'est pas le même télescope, et puis il faut savoir que ces images pleines de couleurs, il y a énormément de techniques derrière, c'est le télescope Hubble qui est en dehors de l'atmosphère, donc qui est pas troublé par notre atmosphère, qui fait des pauses très très longues, donc qui accumule de la lumière pendant des heures et des heures, et après il y a un traitement informatique assez important. Nous on a juste notre œil et un petit télescope. Du coup on verra pas des images pleines de lumière, on voit, comme tu le disais, des petites taches floues. Mais on en voit certaines où on peut distinguer des détails dedans quand même. Et puis ça, c'est assez cool. Et puis après, quand on va voir sur Internet ce à quoi ça ressemble quand on se rapproche un peu plus, c'est formidable.
Suivez-vous de près ou de loin les recherches de vie sur les exoplanètes ?
Plutôt de loin, parce que j'ai pas mal d'autres choses à faire. Mais on cherche aussi là beaucoup sur les lunes de notre système solaire. Donc, pas tant sur la nôtre, mais sur les lunes de Saturne et de Jupiter. Il y a certaines lunes sur lesquelles il semblerait très 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 probablement qu'il y ait des océans de glace qui se déplacent, et donc à l'intérieur, sous ces océans de glace, il y aurait sûrement des océans liquides. Et donc l'eau étant quelque chose d'assez miraculeux pour favoriser la vie, c'est vrai qu'ils pensent qu'il serait possible qu'il y ait de la vie là-bas. Sur Mars, c'est vrai qu'ils ont découvert plein de choses, pareil, au niveau de l'eau, qu'il y avait un vrai réseau hydrographique. Bon, c'était pas l'année dernière, hein, mais il y a pas mal de temps. Et donc, il serait largement possible qu'il y ait des bactéries qui soient là en dormance quelque part.
Il y a beaucoup de glace finalement dans l'univers. Je crois me souvenir que les anneaux de Jupiter sont faits de glace et de poussière, c'est bien ça ?
Voilà, alors Jupiter a des petits anneaux.
Non, les anneaux de Saturne, voilà. Je voulais dire.
Et les anneaux de Saturne, carrément, il y a des anneaux de glace. Et il y a pas mal de glace dans notre système solaire, ça on en est sûr. Et ce qu'il y a de particulier sur la Terre, c'est que oui, il y a de l'eau sous forme de glace, mais aussi sous forme liquide et aussi sous forme gazeuse. C'est vraiment la coexistence des trois états de l'eau sur notre planète qui fait que c'est quelque chose de fantastique.
La taille du Soleil.
Ouais, elle est le diamètre du Soleil.
Très très gros.
Si on repart du diamètre de la planète Terre, le diamètre 12 800 km de notre planète. Et alors le Soleil ?
500 000, qui dit mieux ?
1 200 000.
Ah, et c'est presque ça. 1 400 000.
Wow. 1 400 000.
1 400 000 km de diamètre.
Merci Maxime pour ce voyage astral. Vous pouvez nous rappeler, si vous le savez déjà, la date de la prochaine soirée astronomique que vous animerez à Musiflore ?
Hélas, je ne le sais pas déjà. Ça dépend beaucoup de comment celle-ci va se passer. Et après, voilà, je donne l'information sur les différents réseaux locaux, l'Office du tourisme, les Échos de Cuspo, etc.
Ensemble ici.
Ensemble ici, notamment, bien sûr.
Nous étions au centre de loisirs de Musiflore, à Crupy, près de Dieulfi, dans la Drôme, et vous êtes sur radiola.media. À bientôt. Merci Maxime.
Merci beaucoup à vous, à bientôt.